père avait 3 fils. 2 qui étaient intelligents et instruits, alors que le 3e, moi-même, ne parlait guère. On me disait simple d'esprit, et tout le monde m'appelait le simplet. Notre père, en vieillissant, sentant ses forces décliner et songeant à sa mort, ne savait pas auquel de ses 3 fils il devait laisser le royaume en héritage. Alors il nous dit à chacun, « Partez, et celui de vous 3 qui me rapportera le plus fin tapis, ce sera lui le roi après ma mort. » Afin d'éviter toute dispute entre nous et toute contestation, il nous conduisit lui-même tous les 3 devant la porte du château où il nous dit « Je vais souffler 3 plumes en l'air, une pour chacun de vous, et dans la direction que sa plume aura prise, chacun de vous ira. » La première plume s'envola vers l'est, la seconde vers l'ouest, et la 3e resta entre les 2 et ne vola pas loin, retombant presque tout de suite par terre. L'un de mes frères partit donc à droite, l'autre à gauche, non sans se moquer de moi, qui devait rester où ma plume était retombée, c'est-à-dire tout près. J'allais m'asseoir à côté de ma plume, et je me sentais bien triste. Mais voilà que, tout à coup, je m'aperçus de l'existence d'une trappe là, juste à côté de ma plume. Je levai cette trappe et découvris un escalier. Je descendis les marches sous la terre. En bas, j'arrivai devant une seconde porte et frappai. J'entendis une voix à l'intérieur qui criait « Mademoiselle la Reinette, petite grenouillette verte, fille de race grenouillère, grenouillante gambette, va vite voir qui est dehors. » La porte s'ouvrit et je vis une grosse grasse grenouille entourée de tout un monde de petites grenouilles sautillantes. La grosse grenouille me demanda quel était mon désir. « J'aimerais bien le plus beau et le plus fin tapis, » lui répondis-je. La grosse appela une petite reinette et lui dit « Mademoiselle la reinette, petite grenouillette verte, fille de race grenouillère, grenouillante gambette, apporte-moi la grosse boîte. » La jeunette grenouille alla chercher la boîte et la grosse mère l'ouvrit pour me remettre le fin tapis qui s'y trouvait, mais un tapis si merveilleusement fin qu'on n'en pouvait pas tisser un pareil en haut dans le monde. Je remerciai la grenouille et remontai sur terre. Mes 2 autres frères étaient convaincus que j'étais un complet idiot et que je ne trouverais rien de rien et ne pourrais rien rapporter. Aussi se dirent-ils, à quoi bon nous fatiguer à chercher ? Et ils se contentèrent d'enlever à la première bergère qu'ils rencontrèrent les tissus grossiers qu'elle avait sur le corps, pour revenir au château les apporter à notre père. Au même moment, je revenais moi aussi, apportant mon superbe tapis. Le roi, en le voyant, fut tout étonné. Selon la stricte justice, dit-il, le royaume devrait revenir au cadet. Mais mes 2 autres frères ne laissaient pas de repos à notre père. Ils lui dirent qu'il était tout à fait impossible que le simplet qui ne comprenait rien à rien devint le roi et qu'il fallait imposer une nouvelle condition. Ils insistèrent tellement que le père y consentit. « Deviendra roi celui qui me rapportera la plus belle bague, » dit-il. Il descendit avec nous 3 devant les portes du château, souffla les 3 plumes qui s'envolèrent comme la première fois, l'une vers l'est, l'autre vers l'ouest et la 3e entre les 2, volant à peine pour aller de nouveau tomber à côté de la trappe. Mes 2 frères aînés partirent donc à droite et à gauche, et moi, j'allais devant moi, ouvris la trappe, descendis vers la grosse grenouille, lui disant cette fois que j'avais besoin de la plus belle bague. La grosse se fit apporter la boîte et en sortit une bague qu'elle me remit. Une bague étincelante de pierres rares, si belle et si finement montée qu'aucun orfèvre sur terre n'en pourrait travailler une pareille. À l'idée que j'eus à chercher un anneau d'or, mes 2 aînés se moquèrent et se rirent, estimant une fois de plus qu'il n'était pas nécessaire qu'ils se fatiguassent à chercher. Et ils se contentèrent d'arracher les vieux clous d'une vieille jante de roue à une vieille charrette. Et ils apportèrent chacun son clou au roi, notre père. Mais moi, Je vins et donnai la bague d'or où scintillaient les feux des pierres précieuses. Et notre père déclara cette fois encore que le royaume me revenait de droit. Les deux aînés ne cessèrent de tracasser et de tourmenter notre père pour qu'il imposât une troisième condition. Notre père finit par y consentir et il promit le royaume à celui qui reviendrait avec la femme la plus belle. Il souffla les trois plumes, elles s'envolèrent exactement comme les fois précédentes. Je ne m'embarrassais de rien, ne fis ni une ni deux, et je descendis tout droit chez la grosse grenouille, à laquelle je dis « Il faut que je revienne avec la plus belle femme au château. »« Hé, comme tu y vas !» s'exclama la grosse. « La femme la plus belle, mais je ne l'ai pas comme cela sous la main. C'est un monde de grenouilles ici. Attends seulement un peu, tu l'auras tout de même, hein ?» Et elle me donna une carotte creusée, à laquelle six petites souris étaient attelées. « Qu'est-ce que je vais en faire ?» lui demandai-je tout éberlué et tout triste. « Tu n'as qu'à y installer l'une de mes petites rainettes, » répondit la grosse mère grenouille. Oh, ça, je ne choisis pas, mais j'attrapai dans le cercle la première venue et la mis dans la carotte creusée. À peine y fut-elle, elle se transforma et devint une merveilleuse demoiselle. La carotte était un carrosse, les six petites souris de magnifiques chevaux. J'embrassai la belle, fouettai les chevaux, et j'arrivai devant notre père. Mes frères, pendant ce temps, ne s'étaient donné aucun mal. Ils se contentèrent de ramener avec eux les deux premières paysannes venues. « Elles seront toujours plus belles que la femme qu'il pourra trouver », s'était-il dit. Eh bien, quand le roi nous vit, ce fut pour dire que le royaume me reviendrait de plein droit. Mes frères ne voulurent toujours rien entendre. Ils fatiguèrent les oreilles de notre père à lui répéter « Nous ne pouvons pas admettre que notre frère, Simplet, devienne roi. Il ne comprend rien à rien. » Il voulait une nouvelle épreuve entre les femmes. Qu'elle saute à travers le lustre suspendu au milieu de la salle, dirent-ils, et que la préférence aille à celui qui aura amené la plus capable. C'était un grand anneau de fer, suspendu assez haut, et mes frères pensaient que les paysannes seraient assez fortes pour cet exercice, tandis que la belle demoiselle que j'avais ramenée s'y romprait les os. Le roi céda une fois de plus à leur instance, et les deux paysannes sautèrent, réussissant l'une et l'autre à passer dans le cercle. Mais toutes les deux retombèrent si lourdement et si maladroitement qu'elles se cassèrent bras et jambes, aussi gros et tout épais qu'ils fussent. Alors ce fut le tour de ma belle demoiselle. Elle sauta, elle aussi, mais avec toute la grâce et la légèreté d'une biche, à travers le gros anneau de fer. Il ne pouvait plus y avoir de résistance ni d'opposition après cela. Et ce fut ainsi que j'héritai de la couronne et que je régnai longtemps dans ma sagesse. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin dans la rencontre avec ce conte, je vous recommanderais d'en faire l'expérience, selon les principes de la Voix des Contes. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site www.lavoixdescontes.com et vous trouverez tous les renseignements nécessaires. www.lavoixdescontes.com, la Voix des Contes en un seul mot, voix, V-O-I-E. Mais voici aussi quelques clés d'interprétation pour approcher la sagesse de ce conte et plonger plus profondément en vous-même. On peut s'interroger sur l'étrange stratégie du roi. En confiant le choix de son héritier aux caprices de Trois Plumes, il s'en remet totalement au hasard. Et en demandant le plus fin tapis, c'est-à-dire un tapis sans égal, il indique qu'à ses yeux, l'aptitude à régner n'est pas une affaire de pouvoir, de connaissance ou de sens politique, mais d'orientation à l'absolu de la beauté et de capacité à faire alliance avec le monde d'inspiration, comme il en témoigne lui-même. Ses fils n'entendent pas du tout la demande de la même façon. Les deux aînés, sûrs de leur supériorité, n'envisagent même pas que leur cadet puisse tenter sa chance. Pourquoi se fatiguerait-il à courir le monde et y rechercher un stupide tapis ? Aussi, lorsqu'ils s'aperçoivent que le simplet a effectivement rapporté le plus beau tapis, ils font bloc contre lui et contre leur père. Le simplet, au contraire, reste très proche de son père, malgré son peu d'intelligence et son manque de moyens. Remarquant une trappe dans le sol, il descend voir où cela peut mener, découvrant cette grenouillère étrange et rebutante. Et il sait formuler aussitôt l'objet de son vœu quand ce monde étrange lui en fait la demande. Incompréhensible, secret et un peu inquiétant, ce monde d'inspiration se présente sous une apparence dérisoire et peu reluisante. On imagine bien que jamais les aînés n'auraient condescendu à se mettre au niveau de ces grenouilles ou à répondre à leurs demandes. Le simplet, lui, accepte tout, sans réfléchir ni discuter. Si le roi paraît écouter les demandes de ses aînés au détriment de son cadet, ce n'est pas parce qu'il remet en question la valeur de ces derniers. Au contraire, il a bien reconnu que le simplet est celui de ses fils le plus apte à travailler avec l'inconscient et le monde d'inspiration. Mais il attend de ses autres fils qu'ils acceptent aussi leur frère comme roi, car à défaut, le royaume risque d'être perturbé par des luttes intestines. Dans ce travail paradoxal de résolution des contradictions, le roi fait porter tout le poids sur le simplet et lui donne l'occasion de confirmer ses aptitudes. Non seulement parce qu'il sait que son cœur peut tout supporter, mais aussi que c'est le moment privilégié d'apprendre à travailler avec la dimension d'inspiration, à circuler librement dans ce monde et à créer avec lui. Et nous apprenons ainsi que le mode aléatoire est le mode d'élection de ce monde. Cette histoire est votre histoire et vous renvoie à votre difficulté de choisir entre votre intellect et votre cœur pour faire avancer les grandes questions de votre vie. Or, il vous est présenté une troisième voie avec cette histoire, celle de l'inspiration, que votre intelligence doit reconnaître et parcourir à la façon avisée du roi. Comme le roi, vous devez vous mettre en totale dépendance à l'inspiration et accepter de devoir faire fléchir les idées toutes faites de votre intellect prétentieux, n'ayant pour appui que votre cœur, dès l'instant que vous pouvez le dédier à ne vouloir lui aussi de réussite que par l'inspiration. Vous pouvez trouver dans cette histoire des indications très précieuses pour réussir la réorientation de votre vie à partir des ressources de votre inconscient et créer avec lui de nouvelles conditions pour votre existence. Jusqu'où irez-vous dans les arcanes du mode aléatoire exposé si bien ici dans ce conte? Eh bien, il suffit d'essayer. En voici les moyens. Vous avez bien fait d'être attentif jusqu'à maintenant, car cette écoute vous a mené comme à la rencontre d'une instance féerique qui va certainement vous demander quel est votre désir. Réfléchissez, pendant qu'il est temps, à ce que vous pourriez lui demander. Dans quel domaine de votre vie vous faut-il un miracle d'accomplissement? La relation à vous-même? La relation aux êtres qui vous sont proches, aux enfants, la relation au travail ou à la vie sociale, la relation à la chance. Vous avez bien compris que vous pouvez traiter cette question directement par l'inspiration, au lieu de vous limiter à vos représentations et moyens habituels. Pour cela, il faudrait comme jeter 3 plumes en l'air et vous aventurer à la rencontre des profondeurs de vous-même. Je vous conseillerais de faire appel à un coach de la Voix des Comptes pour cela, qui vous proposera des conseils pour vous ouvrir à une vision neuve sur votre question et vous aider à faire émerger l'accomplissement qui vous est destiné. Il vous fera aussi cadeau du compte et de ses clés de sagesse. À bientôt.